aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bonjour à tous, Yacouba Ouidraougo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire en cette matinée du lundi 23 décembre, le Mali, le Niger et le Burkina Faso rejettent le délai de rétraction des 6 mois accordé par la CEDEAO avant leur retrait définitif de l'organisation régionale. Au Nigeria, au moins 32 personnes sont mortes dans 2 mouvements de foule lors de distributions alimentaires le week-end. En République démocratique du Congo, les armées ont désormais un nouveau commandement au moment où la progression des rebelles du M23 s'accélère dans l'Est.
Ce réaménagement a été dicté par l'observation de la débâcle de l'armée sur le terrain de bataille au Nord Kivu.
Interview à suivre dans la partie magazine de cette édition. Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump dit vouloir arrêter ce qu'il qualifie de délire transgenre dès son premier jour à la Maison-Blanche le mois prochain. En sport, nous parlerons des résultats des matchs allés du dernier tour éliminatoire du CHAN 2025. Ce sera dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie, mais d'abord le journal. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont rejeté le délai de rétraction des 6 mois accordé par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avant leur retrait définitif. Ils disent y voir une tentative de déstabilisation extérieure. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé en janvier dernier leur volonté de quitter la CEDEAO qu'ils jugent instrumentalisée par l'ancienne puissance coloniale française. Lors d'un sommet il y a une semaine à Abuja, la CEDEAO a annoncé un délai de rétraction de 6 mois pour que les 3 pays qui forment l'Alliance des États du Sahel puissent revenir sur leur décision après la date de leur départ officiel fin janvier 2025. Mais selon le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, cette décision n'est qu'une énième tentative qui permettrait à la France et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. Pour les chefs d'État de l'AES, cette décision unilatérale ne saurait lier leur pays. Avant le sommet, ils avaient déjà annoncé que leur décision de quitter l'organisation était irréversible. Les présidents du Sénégal et du Togo jouent le rôle de médiateur pour tenter de ramener les 3 pays au sein de la CEDEAO.
Au Nigeria, au moins 32 personnes sont mortes dans 2 mouvements de foule lors de distributions alimentaires samedi. Des drames qui surviennent à l'heure où le pays connaît l'une de ses pires crises économiques, entraînant une forte inflation des denrées alimentaires. Mohamed Oumfa.
À Okija, dans l'état d'Anambra, le bilan annoncé dimanche par la police s'établit à 22 morts. Le commandement de la police, tout en exprimant ses condoléances aux familles et aux amis des défunts, souhaite un prompt rétablissement aux blessés, a déclaré dimanche Toshuku Ikenga, porte-parole de la police de l'état d'Anambra. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la bousculade, selon la police. Samedi également à Abuja, la capitale du Nigeria, 10 personnes ont été tuées et 8 autres blessées lors d'une autre bousculade. Cette dernière s'est produite aux abords de l'église catholique de Maitama lors d'une distribution d'denrées alimentaires destinée à des personnes vulnérables et âgées selon les forces de l'ordre. Cela devient trop répandu et cela montre que des mesures de précaution ne sont pas prises, a déclaré Manzo Ezekiel, un des porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences. Face à la flambée des prix des aliments au Nigeria, de nombreux Nigériens sont contraints de faire la queue durant des heures lors des distributions alimentaires. La fin des subventions de carburant et du contrôle des devises décidé par le président Bola Ahmed Tinubu à son arrivée à la tête du Nigeria en mai 2023 a entraîné une hausse du coût de la vie dans le pays avec une inflation atteignant 34,6% en novembre 2024.
Au Mozambique, le Conseil constitutionnel doit annoncer ce lundi sa décision sur la validité des élections présidentielles et législatives du 9 octobre dernier. Les résultats annoncés par la commission électorale proclament vainqueur Daniel Chapo, candidat du Frelimo, parti à la tête du pays depuis son indépendance en 1975 avec plus de 70% des voix. Le principal opposant, Venancio Motlane, qui conteste cette victoire, a promis le chaos si le Conseil constitutionnel validait ses résultats. Après 2 mois d'une contestation inédite dans la rue, au moins 130 personnes sont mortes, d'après l'ONG locale Plataforma Decide. En Côte d'Ivoire, des milliers d'Abidjanais se succèdent jour et nuit depuis mardi à Koumassi pour soutenir une chef ivoirienne. Zeynab Bansé cuisine en continu pour tenter de battre le record du monde Guinness du plus long marathon culinaire individuel. Objectif pour la chef, 120 heures de cuisine pendant 5 jours, 5 minutes de pause par heure travaillée et 2 heures de sommeil par nuit pour arracher le record du monde à l'Irlandais Alan Fisher, remporté en fin d'année dernière avec 119 heures et 57 minutes sans interruption. Proche de la fin du challenge prévu hier soir, Zeynab Bansé a choisi de le prolonger de quelques heures jusqu'à ce lundi pour anticiper un décompte de temps d'arrêt par le jury.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, un nouveau gouvernement devrait être annoncé aujourd'hui ou demain au terme de tractations et d'échanges entre le Premier ministre François Bayrou et le président Emmanuel Macron. M. Bayrou est le quatrième chef du gouvernement, cette année 2024. Une instabilité qui n'avait pas connu la France depuis des décennies. Rosine Mounessero.
Le Premier ministre François Bayrou est en train d'effectuer les derniers réglages, a indiqué dimanche son entourage, alors que le président Emmanuel Macron est rentré dimanche matin d'une tournée qu'il a conduite à Bruxelles, à Mayotte et en Afrique de l'Est. Monsieur Bayrou, désigné le 13 décembre, avait dit vouloir aboutir à des nominations au plus tard avant Noël. Cela avance, la structuration des grands pôles ministériels est fixée, avait assuré samedi soir le président des députés du parti de Monsieur Bayrou, le MoDem, Marc Fesneau. Monsieur Bayrou souhaite former une équipe resserrée et la plus ouverte possible. Il veut qu'elle comprenne des personnalités de poids, de gauche comme de droite et du centre, afin de répondre aux urgences qu'affronte le pays, notamment budgétaires. Il doit naviguer sur la scène politique éclatée, issue des législatives anticipées organisées après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale par M. Macron en juin. M. Bayrou, âgé de 73 ans, a été nommé par Emmanuel Macron au terme de longues consultations pour trouver un successeur au conservateur Michel Barnier, dont le gouvernement minoritaire a été renversé le 4 décembre par des députés de gauche et d'extrême droite, après seulement 3 mois en poste.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a annoncé dimanche vouloir arrêter ce qu'il qualifie de délit transgenre dès son premier jour à la Maison-Blanche le mois prochain. Dès l'investiture le 20 janvier, je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, exclure les transgenres de l'armée et les exclure des écoles primaires, des collèges et des lycées, a déclaré le prochain président américain, ajoutant que la politique officielle des États-Unis sera qu'il n'y a que 2 genres, hommes et femmes. États-Unis toujours, au moins 3104 enfants amérindiens sont morts dans des pensionnats aux États-Unis, arrachés à leur famille pour être assimilés de force, affirme le Washington Post, dans ces établissements dont certains religieux et qui ont existé du début du 19e siècle aux années 70. Beaucoup d'enfants ont subi des violences physiques, psychologiques ou sexuelles, selon un récent rapport gouvernemental qui estimait à au moins 973 le nombre d'élèves y étant décédés. Au moins 35 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza, selon la défense civile du territoire palestinien. Après plus d'un an de conflit, la guerre se poursuit entre le Hamas et Israël, malgré les espoirs grandissants d'un cessez-le-feu. John Lindon.
La bande côtière palestinienne a été touchée à plusieurs endroits en l'espace de quelques heures par des frappes aériennes de l'armée israélienne. L'une d'entre elles a visé dans la nuit de samedi à dimanche un bâtiment scolaire abritant des déplacés dans la ville de Gaza. Elle a fait 8 morts, dont 4 enfants, selon la défense civile. L'armée israélienne a affirmé avoir mené une frappe ciblée contre des terroristes du Hamas qui opéraient au sein de l'établissement pour préparer des attaques terroristes contre les troupes israéliennes et l'État d'Israël. De multiples mesures avaient été prises en amont afin de réduire le risque de toucher des civils, a-t-elle précisé. Ces nouvelles violences ont poussé le pape François à condamner pour la 2e fois en 2 jours la cruauté des frappes contre Gaza, en dépit des protestations de la diplomatie israélienne qu'il avait accusé la veille de faire 2 poids, 2 mesures. Le mouvement islamiste Hamas et 2 autres groupes palestiniens avaient laissé entendre samedi qu'un accord pour une trêve à Gaza était plus proche que jamais. L'accord pourrait être finalisé avant la fin de l'année si le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'impose pas de nouvelles conditions, a affirmé un responsable du Hamas, précisant qu'un éventuel accord serait mis en place graduellement.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé hier les Houthis d'agir avec force et détermination au lendemain d'une frappe des rebelles du Yémen, ayant fait 16 blessés à Tel Aviv dans le centre d'Israël. Les rebelles yéménites ont revendiqué ce tir dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont affirmé avoir mené cette attaque en solidarité avec le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Les Houthis font partie de ce que l'Iran appelle l'axe de la résistance. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Nathalie Bache.
Au Soudan du Sud, une deuxième raffinerie de pétrole va être construite à Tarjiat dans l'état d'Unity et la raffinerie existante de Bentiu va être réhabilitée. Selon le gouvernement, le financement de la nouvelle raffinerie est estimé à 3 milliards de dollars. L'infrastructure sera détenue à 30% par Nilpet, la société publique du pétrole, et à 70% par la société kenyane Quadlayer Holdings. Aviation sans frontières a conclu un accord avec Windracers pour exploiter le drone cargo longue distance le plus performant au monde, l'aéronef Ultra MK2, afin de livrer des fournitures aux organisations humanitaires en Afrique dès 2025. Avec une portée de 1000 km, cet avion autonome conçu en Grande-Bretagne a effectué plusieurs missions. Disponible sous forme de service ou d'achat, Windracers Ultra sera bientôt opérationnel en Afrique. Le Forum des minéraux du futur se tiendra à Riyad en Arabie Saoudite du 14 au 16 janvier. Au programme notamment des tables rondes sur le leadership régional pour l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie centrale. Également une table ronde avec plus de 100 représentants de gouvernements et 50 organisations internationales. Les participants aborderont les questions d'investissement et d'infrastructure. Parmi les intervenants figurent les PDG de sociétés membres du Conseil international des métaux et des mines.
Comme chaque lundi matin, les nouvelles sportives nous viennent de Boïcon au Bénin. Et nous retrouvons Élisée Patin. Bonjour Élisée.
Et bonjour Yakuba et bonjour à tous.
On commence avec du football, les matchs allés du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2025.
Oui, encore 14 places à prendre à la fin de cette semaine si on met de côté les trois pays organisateurs, Kenya, Tanzanie, Ouganda, ainsi que le Maroc et la Zambie qui ont bénéficié du retrait de leur adversaire. Sinon, belle opération réalisée par la Guinée qui a dominé 4-1 la Guinée-Bissau. 2-0 en faveur de la Côte d'Ivoire qui recevait le Burkina Faso. La phase finale se rapproche aussi pour l'Angola, vainqueur au Lesotho 2-0. Même résultat pour Madagascar et le Soudan en déplacement respectivement en Eswatini et en Éthiopie. Et puis le Cameroun a réalisé l'essentiel, 1-0 devant la Centrafrique à Abidjan.
En revanche, le Sénégal a été accroché par le Libéria.
1-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre qui a laissé un goût d'inachevé aux champions en titre. Même score entre le Tchad et la RDC, puis pour le match Togo-Niger à Lomé. On écoute l'entraîneur des éperviers locaux, Kader Koubadia, qui fait sa lecture de jeu.
Je ne peux pas dire que je suis satisfait, mais par contre je suis content de la prompte tenue du jeu, même s'il y a des petits ajustements à travailler encore. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Si déjà on a joué contre le Bénin, on a gagné, je ne vois pas pourquoi il va changer l'équipe. Donc, le discours était de marquer le deuxième pour pouvoir être à l'abri. En plus, on était moins présent sur le deuxième ballon. Donc, c'est des choses que, bon, voilà, on essaie de régler au vestiaire avant de sortir.
Ça reste également ouvert pour les matchs Ghana-Nigeria et Guinée-Équatoriale-Congo-Brazzaville qui se sont soldés par un nul blanc. Le dernier match de ce dernier tour aller Burundi-Ouganda aura lieu ce jeudi. Pour rappel, la compétition se tiendra du 1er au 28 février prochain.
Football toujours en Afrique, mais en club cette fois, match décalé de la troisième journée de la Ligue des Champions, CAF.
Et le tenant du titre, Al Ahly du Caire, en profite pour prendre la tête du groupe C après avoir nettement battu 6-1 les Algériens du CR Belouizdad. Les Égyptiens, avec 7 points, comptent 4 de plus que leur adversaire du jour classé 3e. À la deuxième place, les Sud-Africains d'Orlando Pirates qui totalisent 5 points et les Ivoiriens du stade d'Abidjan ferment la marche avec une unité.
Direction le Niger pour la célèbre compétition de lutte traditionnelle de fin d'année. le sabre national.
Oui, une 45e édition qui a débuté vendredi dernier à Dosso, à 130 km au sud-est de Niamey. Tenant du titre et 6 fois sacré depuis 2015, Issaka Issaka sera encore le grand favori. À 34 ans, le natif de la ville haute pourrait être couronné pour une 7e fois au soir du dimanche prochain.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Yacouba Ouidraogo toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Les armées de la République démocratique du Congo ont désormais un nouveau commandement. Le changement s'effectue au moment où la progression des rebelles du M23 s'accélère dans l'Est. Le président Félix Tshisekedi a nommé jeudi dernier le lieutenant-général Jules Banza Mouliamboué comme le nouveau chef d'état-major général et a permuté bien d'autres officiers des FARDC. Eddy Sango a joint à Goma l'analyste de l'International Crisis Group pour les Grands Lacs, Onesfor Sematumba.
Ce réaménagement a été dicté par l'observation de la débâcle de l'armée sur le terrain de bataille au Nord Kivu, où cette série de défaites a été imputée dans l'opinion et peut-être aussi au plus haut niveau à un mauvais arrangement des troupes sur le terrain et donc à un problème de management militaire. Donc c'est une rectification pour essayer d'exercer la tendance sur le terrain.
À la tête des armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Jules Banza Milamboué. Mais qui est-il? Qu'est-ce qu'on connaît de lui?
Il vient de la maison militaire du président Tshisekedi, donc c'est quelqu'un de proche. Il était le commandant adjoint de la maison militaire, donc il était l'adjoint du général Toumba, le tout puissant général Toumba. Mais surtout, il vient aussi de la province du Haut-Katanga. Donc c'est quelqu'un du Haut-Katanga qui accède au commandement de l'armée. Et il a la réputation d'être un excellent militaire qui a fait ses preuves, qui a fait de bonnes écoles. Et donc on peut espérer qu'il va faire la différence sur le terrain.
Et la maison militaire du chef de l'État, c'est le noyau même de la conception de la stratégie militaire du pays. Mais lui vient de ces milieux-là, maintenant il est à la tête des armées. Qu'est-ce qu'il peut bien apporter de nouveau? Qu'est-ce qu'il peut changer? Souvent on parle des problèmes de manque de moyens matériels, logistiques et même d'impaiement des militaires.
Ce qu'il peut apporter et ce que l'opinion souhaite, c'est qu'il soit en meilleur terme avec le général Toumba, donc le commandant de la maison militaire justement, dont on disait qu'il était parfois en compétition ou en concurrence avec le chef d'état-major général des armées. Donc il y avait une sorte de dualité à la tête de l'armée, donc la maison militaire étant rattachée directement à la présidence. Et donc, comme c'est quelqu'un qui vient de l'institution présidence, dirais-je, bon, on espère que la collaboration sera plus fluide et que les chaînes de commandement seront plus claires et que cela va se traduire sur des résultats sur le terrain.
Est-ce que vous pensez que cela sera bien accueilli au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau de ceux qui exécutent les commandements? Parce que parfois, on accuse beaucoup de choses. On voit des vidéos des militaires qui se plaignent et autres, quoi.
Bon, de toute façon, il y avait beaucoup de murmures, donc une sorte de mécontentement, pas seulement chez les militaires, mais aussi chez les civils, qui mettaient en doute la bonne volonté et la capacité du commandement sortant par rapport au front. Et on accusait d'ailleurs parfois nommément les commandants seconds, donc le chef d'état-major général adjoint qui était déployé au Nord Kivu comme commandant des opérations, chef des opérations, le général Chico, et son adjoint, le général Kabundi, de collusion avec l'ennemi ou de manque de courage face au M23. Et bon, les deux ont été relevés du terrain et sont envoyés à la zone de défense 1, à l'ouest.
Onesfor Sematumba, analyste de l'International Crisis Group pour les Grands Lacs.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, les autorités renforcent les mesures de sécurité face aux menaces dans certaines régions du pays. Il s'agit notamment de la région de l'extrême nord qui subit encore des attaques sporadiques de Boko Haram, des régions du nord-ouest et du sud-ouest en zone anglophone et celles qui leur sont limitrophes de Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Julentap.
La batterie de mesures est dictée au terme d'une concertation à Yaoundé. Concerne notamment la région de l'extrême nord où 10 djihadistes ont été tués la semaine dernière lors d'un assaut contre une base militaire de la force multinationale mixte composée du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun. Midiawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord.
Nous allons seulement densifier les personnels policiers et gendarmes seront affectés dans la région, ce qui nous donnera davantage d'éléments pour quadriller toute la région et la zone frontalière également. Et nous sommes également dans la logique des préparatifs des élections de 2025.
Au nord-ouest, en zone anglophone, les autorités font face aux bandes armées qui opèrent le long de certains axes routiers et spolient les populations. Adolphe Lélé Lafrique, gouverneur de la région du Nord-Ouest.
Nous avons pour cela mis en place un dispositif de sécurité pour prévenir que cela se poursuive sur les grands axes routiers où des forces ont été déployées et dans le périmètre urbain, en particulier celui de Bamenda, où un dispositif d'attaque et une task force a été mise en place pour mettre hors de terre de nuit ceux qui seraient tentés de faire du désordre sur la place de Bamenda.
Dans la région du sud-ouest, toujours en zone anglophone, l'on est toujours sans nouvelles de Roland Ewané, sous-préfet d'Idabato dans la presqu'île de Bakassi, proche du Nigeria. Cette autorité administrative a été enlevée début octobre dernier. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, renseigne sur sa situation.
Cet acte criminel est très bien suivi par les autorités compétentes. Au Sénat et à l'Assemblée nationale, le ministre de l'administration territoriale a été interpellé par les parlementaires sur la situation du sous-préfet d'Idabato. Nous leur avons expliqué tout ce que le gouvernement fait pour obtenir sa libération, ainsi que la libération du maire kidnappé au même moment que lui.
Le kidnapping des villageois, avec demande de rançon attribuée aux séparatistes anglophones, sévit également dans certaines localités de la région de l'Ouest, limitrophe du Nord-Ouest. Augustine Awafonka, gouverneur de la région de l'Ouest.
Les nouveaux postes avancés ont été créés plus proche de la frontière avec le Nord-Ouest pour s'occuper de ces populations, surtout du côté de nous. Et je crois qu'avec ces revues, ça apporte des fruits. Nous enregistrons aussi une bonne collaboration avec les populations qui sont de plus en plus conscients.
Nombreux sont ceux qui espèrent une amélioration de la situation sécuritaire en cette période de fête à la suite de ces mesures de sécurité annoncées à Yaoundé. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Gabon, après plus de 2 ans sous cloche, le pays retrouve la liberté. Le gouvernement de transition a décidé de lever le couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. À Libreville, la vie reprend des couleurs. Le reportage de notre correspondant Ismaël Obianzi.
Bravo.
Le mariage du jeune couple Makou ne pouvait pas si bien tomber. Il intervient en pleine levée du couvre-feu. Cette heureuse coïncidence en rajoute à leur bonheur partagé sous un concert de klaxons.
Avec cet heureux événement, donc là on va s'enjailler quoi. La fin d'année déjà ça symbolise en fait les festivités partout, donc du coup on a voulu mettre ça sur cette période afin que voilà, on puisse vraiment profiter avec la famille.
Le Gabon sort de 2 ans de couvre-feu, une mesure prise par les autorités militaires après les 2 premières années des restrictions contre la pandémie du Covid. Lorraine, une commerçante installée sur le front de mer, se rappelle de ce traumatisme.
On n'arrivait pas à faire des chiffres. Déjà, on emploie des Gabonais aussi, comme nous. Il faut penser au salaire. Il faut penser à payer un loyer. C'était vraiment très difficile pour nous de nous en sortir.
À Libreville, la nuit reprend ses droits. Le quartier, lui, avec ses bars, restaurants et nightclubs, fait désormais la fête jusqu'à l'aube. Tania est une serveuse de bar.
Les choses ont repris dans les normes. On a plus de clients qu'avant. Alors, nous allons veiller jusqu'à 3h, 4h, X heures. Alors, ce soir, c'est la soirée salsa bachata et qui joue pas.
Guitariste chanteur du groupe Mbala, Eric Bertrand peut enfin retrouver les cabarets.
Et même si ça fait que 2 semaines,
il y a des gens qui vont arriver à avoir leur petit gain et tout ça. Et nous qui sommes musiciens de cabaret, nous sommes hyper contents que ce couvre-feu soit levé. On jouait plus 2h30, on jouait plus 3h30, on jouait 1h30. Et quand on est obligé de rentrer à la maison, certes que nos patrons diminuent un peu le cachet, mais je crois qu'en ce moment, ça va aller.
Technicien de surface, Sandra est l'une des rares voix qui s'oppose à la levée du couvre-feu.
La levée du couvre-feu ne m'arrange pas, parce que moi j'habite une zone là où il n'y a pas la lumière, j'habite à Koubougou, là-bas il y a les braqueurs. Quand on rentre le soir vers 19h20, on n'a pas des clandos, mais on s'est fait braquer. Comme ils ont levé le couvre-feu, il faut que les agents circulent toujours, parce que là c'est pour... Si les agents continuent à circuler, il y aura moins de braquages.
Mais le communiqué du gouvernement fait débat sur son manque de clarté. Pour une certaine partie de l'opinion, la levée du couvre-feu jusqu'à nouvel ordre inquiète plus qu'elle ne rassure sur les intentions de la junte au pouvoir. Ismaël Oubianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Avec la propagation de fausses informations sur les médias sociaux, les journalistes du Mozambique sont en première ligne dans la lutte contre la désinformation. Depuis Maputo, le reportage d'Amarilis Goulet, récit Lionel Gaïma.
Ici, dans la salle de rédaction des Evidencias à Maputo, au Mozambique, Reginaldo Chambule et son équipe s'efforcent de rétablir la vérité pour lutter contre la désinformation. Lui et son collègue Nelson Mukchanze expliquent qu'ils ont cofondé l'organe de presse écrite et numérique il y a 4 ans parce que beaucoup d'autres organisations ne vérifiaient pas les faits et n'utilisaient pas des données et d'analyses dans leurs reportages. M. Chambouli affirme que leur audience a rapidement décollé.
Le journal Evidencias a peut-être acquis une plus grande visibilité, une plus grande notoriété en si peu de temps en raison de la manière dont nous avons abordé le journalisme lui-même. Nous avons déjà eu une page où nous vérifions les faits sur les principales nouvelles qui circulaient sur les médias sociaux.
Cette année, Reginaldo Chambule a expliqué pourquoi Osufo Momade, le chef de la RENAMO, le principal parti d'opposition du Mozambique, n'avait pas été vu en public pendant des semaines au cours de la campagne présidentielle.
Nous avons déjà des contacts avec des outils de vérification d'image. Nous avons pris l'image et l'avons introduite dans le logiciel et nous avons constaté que cette image a été publiée sur la même page en 2019. C'était le changement d'une narration qui aurait pu désinformer le public.
Face à la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux, le journaliste mozambicain Armando Nantumbo de l'Institut des médias d'Afrique australe estime qu'il faut investir dans la technologie pour que les salles de rédaction puissent former les journalistes à la lutte contre les fausses informations et la désinformation.
Grâce à la technologie, nous avons un meilleur accès à l'information et nous sommes en mesure de participer de plus en plus aux questions de gouvernance, par exemple, ce qui était difficile il y a 30 ans. Ce qui se passe, c'est qu'à côté de ces avantages, il y a des inconvénients. L'un de ces inconvénients est précisément la désinformation.
Exactement.
Missa Mozambique fournit des services de vérification des faits et forme des journalistes, explique M. Nantumbo.
Il y a des outils numériques qui nous aident à faire cela et nous, à Missa Mozambique, nous avons organisé des formations pour les étudiants en journalisme, pour les journalistes et la société civile sur la façon d'utiliser ces plateformes.
Alors que la société s'appuie de plus en plus sur les réseaux sociaux pour s'informer, les défenseurs de médias affirment que le travail de groupes comme Evidencias et Missa Mozambique sera un puissant moyen pour informer le public de manière précise et objective.
Voilà, c'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Omito Yakuba Ouidraougo, Georges Léona Sayou à la réalisation. Ainsi va le monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes VOAfrique.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde